Éric Godichaud, écrivain en pantoufles. D'abord, chers auditeurs, permettez-moi de vous faire part du plaisir de vous retrouver enfin après 2 mois de confinement. Alors, pour entrebâiller la porte, ouvrir grand les volets, commencer à réinventer le monde, un écrivain en pantoufles consacré à un marcheur invétéré comme Rousseau, sur les chemins escarpés des Alpes, Robert Walser. Alors, en route pour cette promenade, cette ascension vers les nuages, petits êtres immatériels dans le grand ciel, de Radio Grand Ciel. Plantons le décor. À l'image de Courbet, nous voyons devant nous le fameux panorama des Alpes. Robert Walser est né le 15 août 1878 à Bienne, en Suisse, près du lac Léman. Ayant participé à la Commune de Paris, accusé d'avoir détruit la colonne Vendôme, ayant eu son atelier à Croissy pillé, exilé en Suisse, Courbet décide de peindre les Alpes qui emplissent la fenêtre de son atelier. Les Alpes qu'il peint sont une muraille, un mur de pierre. Walser est lui l'écrivain qui va à l'assaut de la montagne, et la montagne est d'abord élévation. Elle permet d'alléger l'existence de son poids, c'est le mouvement vers quelque chose d'autre. Aussi, ce petit récit merveilleux, La Promenade, nous plonge dans l'univers walsérien. Il montre l'éternel jeune homme qu'il resta même à la fin de sa vie, découvrant le monde, le plongeant dans un bain de jouvence, comme au premier temps des découvertes, monde devenu transparent, comme à travers la fine paroi d'une porcelaine, et qui, c'est important, laisse passer la lumière. Thank you. Tandis que je cherchais et cueillais des fleurs, tantôt dans un petit bois, tantôt en plein champ, il se mit doucement à pleuvoir. Et du coup, le tendre paysage devint encore plus tendre et plus silencieux. Épiant le bruit de la pluie qui ruisselait mollement sur les feuilles, j'eus le sentiment que cela pleurait, comme une faible et chaude pluie d'été et douce. De vieilles fautes, depuis longtemps passées, me revinrent à l'esprit. Infidélité, rébellion, fausseté, perfidie, haine, et bien des scènes violentes et laides, des désirs effrénés, des passions déchaînées. Il me revenait clairement comment j'avais causé de la peine et fait du tort à bien des gens, dans ce bruissement délicat qui chuchotait alentour, ma songerie s'approfondit jusqu'à la tristesse. Ma vie d'autrefois s'ouvrait devant moi comme une scène de théâtre, tout agité de tableaux dramatiques et passionnants, si bien que malgré moi, je ne pus que m'étonner de mes nombreuses faiblesses, de mes vilains tours en tout genre, ainsi que du manque de gentillesse dont j'avais bien souvent fait preuve. Je vis alors devant moi le second personnage qui surgit soudain, ce pauvre vieil homme abandonné que j'avais vu quelques jours plus tôt couché sur le sol et si pitoyable, si pâle, si tourmenté, si épuisé, si lamentablement proche de la mort que ce spectacle poignant m'avait profondément effrayé. Cet homme fatigué, je le regardais à présent en imagination et j'en eus presque la nausée. Comme je voulais m'étendre quelque part et que par hasard il se trouva tout près de là un petit emplacement tranquille sur la rive, je m'installai aussi confortablement que possible, épuisé comme je me sentais sur le sol doux, sous les braves grosses branches d'un arbre accueillant. Quelque chose dans ce passage se dissout en secret. Tous les linéaments d'une vie heureuse. C'est ce travail du négatif de la mort en nous qui est le signe du tragique chez Walser, mais un signe imperceptible, comme l'envers d'un monde idéalisé. Avant d'aller rendre visite à Robert Walser, un avant-goût avec le corps des Alpes, immense tube qui peut mesurer des mètres, dont le son chaud et puissant se réverbère sur les parois enneigées. Nous passerons vite sur l'internement en 1929 de Walser à Waldau tout d'abord. Cet internement au long cours, 23 ans, est lié à une époque où l'on faisait carrière dans la maladie mentale, il était très difficile d'en sortir. Comme Hölderlin, un autre foudroyé, Walser vivota sans rien demander à personne, puis à partir de 1933, arrêta complètement d'écrire pour protester contre sa mise sous tutelle et son transfert à l'hôpital psychiatrique des Rizeaux, contre son gré. Comme Nietzsche, sa sœur Lisa fut son ange noir. C'est elle qui le fit interner après son effondrement et refusa qu'il sorte, même lorsqu'il sera stabilisé. Alors, pendant 23 ans, jusqu'à sa mort, le jour de Noël 1956, il sera occupé du lundi matin au samedi midi à coller des sacs en papier, trier des légumes secs, récupérer des restes de papier d'argent et cordeler des ficelles. Dans son temps libre, Walser lit de vieilles revues reliées, fume et va régulièrement se promener dans la montagne, comme lorsque, plus jeune, il partait sur les sentiers poussiéreux, un quignon de pain, un morceau de jambon sec dans les poches. Le jeune homme dans les Alpes de Robert Walser. Le jeune alpiniste. Comme on se sent fort, intrépide, plein de santé, ici, en haut, dans l'air, tout saturé de présence divine. Tout autour, des sommets se découpent en dents de scie. À force d'enthousiasme, le jeune alpiniste relâche son attention et fait une chute. Je suis encore en vie. J'ai dû tomber très bas. Je respire. La jambe me fait souffrir, mais je peux bouger les bras. J'ai la certitude secrète, flatteuse, de n'avoir subi qu'un mal insignifiant. Mais à présent, ici, au fond, il me faudra peut-être mourir de faim, car qui pourrait avoir l'idée que je suis plutôt là qu'ailleurs ? Si habile et astucieux que j'ai pu être, jamais je n'ai rien détourné à mon profit, jamais je ne me suis accaparé le bien d'autrui. Les femmes, je les ai vénérées sans relâche. Par contre, j'ai une mère qui en ce moment même se trouve en proie à une invincible anxiété. Comme elle doit se tordre en pensant à moi. Quelle musicale fatigue ! L'alpiniste s'endort doucement jusqu'à ce que des voix le réveillent. Ce sont celles des gens qui sont venus à sa recherche. Il répond faiblement, mais distinctement, « C'est moi ! Je suis en bas, venez me chercher !» En tout cas, il est sauvé. Changement de décor, rue de village, le jeune homme est transporté sur une civière.
C'est ainsi qu'on te rapporte, méchant, m'avoir causé tant de soucis.
Tu as l'air réprobateur.
La mine réprobatrice est la seule qui convienne aux circonstances présentes. Qu'il est pâle, jamais je ne l'avais vu aussi séduisant.
Est-ce qu'il n'y a pas en moi un petit quelque chose d'Alexandre Moissy, maintenant ? Une fois, je l'ai vu jouer au Oswald dans Les Revenants d'Ibsen.
Pour les courses de montagne, tu n'en referas pas de sitôt.
Il existe un roman de Koncharov intitulé « La chute ».
Je vois dans ses continuelles remarques littéraires cette insistance obsessionnelle sur les questions culturelles, la preuve que tu n'es pas aussi tendre à mon égard que tu le devrais. Ne lis pas autant.
Une fois, j'ai lu un roman alpestre de Dickens qui m'a paru écrit d'une plume extrêmement alerte.
Nous voici arrivés chez nous.
La belle sérénité, l'acquiescement au destin que j'ai vécu là-bas, alors que j'étais laissé en tête-à-tête avec moi-même. C'est tout juste si je ne me languis pas après cet état maladif d'une totale plénitude.
Heureusement qu'on t'a retrouvé.
Il y a quelque chose en moi qui regrette la possibilité d'être un de ces plus jamais retrouvés. La mère lui jette des regards inquiets, inquisiteurs, aimants, jaloux. Thank you.
Je marche dans la neige, j'ai juste quitté la route, payé le taxi et je grimpe difficilement vers l'asile de Aizano. La porte s'ouvre, le gardien me dit que « Monsieur Walzer est à l'atelier, attendez-le un moment. Il va venir, il est prévenu de votre visite. » Je jette un coup d'œil rapide sur la pièce. Deux lits recouverts d'une couverture brune, quelques étagères vides, une petite table et sur la table, une boîte à chaussures. Je l'ouvre et là, je trouve de tout petits papiers recouverts d'une minuscule écriture absolument illisible, encore plus petit que des pattes de mouche. Ce sont les fameux microgrammes. Il s'agit d'une écriture au crayon de bois qu'on mettra plus de 20 ans à déchiffrer. Sur une feuille A4, par exemple, découpée en plusieurs morceaux, des prospectus ou des enveloppes, il y a des dizaines et des dizaines de pages dactylographiées. C'est une écriture seulement lisible par lui, Robert Walzer. Un espace mental interdit à l'autre, le territoire du sujet, inviolable. Ce sont des brouillons qu'il recopie lorsqu'il décide de publier un texte. « Voilà Monsieur Walzer !» Un homme, assez petit, entre, habillé d'un petit costume gris-bleu, barré d'une chaîne en or, chaîne de montre, un joli chapeau sur la tête, une canne en bois torsadée dans l'autre main. Sans un mot, il me précède et nous sortons pour une grande promenade. Comme il ne parle pas, je ne parle pas. A-t-il vraiment chuté comme le jeune alpiniste ? Rien n'est moins sûr. Le silence est aussi l'espace des microgrammes, la petite parcelle inviolable en chacun de nous. Allez, encore un petit effort, on est presque arrivé. Malgré ses 70 ans, il monte comme un cabri, Walzer. Il s'amuse là-haut, il me regarde un sourire en coin de me voir souffler. Faut dire que depuis le confinement, j'ai un peu grossi. Enfin, j'y arrive. Et soudain, il lève sa canne et balaye l'espace devant lui. Le panorama des Alpes, de nouveau, est au premier plan. Mais contrairement à celui peint par Courbet, dont je vous ai parlé en début d'émission, ce n'est ni un mur, ni un agrégat de bleu neigeux, de rose pâle. Le soleil radieux glisse lentement sur la montagne, devenue transparente, moussue, sous une lumière d'or, un vernis brillant laissant derrière lui intact la beauté des montagnes, si indulgente, si consolante pour nous, pauvres humains.
Merci à Simon à la technique et au mois prochain pour notre dernière émission de l'année sur Marguerite Duras. Thank you.